Imaginez que vous ayez été invité à, par une de vos connaissances, quelqu'un que vous connaissez un peu, mais pas tellement, vous invitez à une fête dans sa maison en province, et vous ne connaissez pas très bien, vous suivez les indications en voiture, vous arrivez sur cette route, et puis il y a une magnifique grille qui ouvre vers un chemin qui part dans la campagne. Peu impressionnant, parce que c'est vraiment une grille de château. Et puis vous engagez sur cette allée, et c'est magnifiquement entretenu. Cette allée sillonne la campagne, puis les bois. Ça dure plusieurs centaines de mètres, des kilomètres. Il y a des massifs de rhododendrons, tout ça est parfaitement entretenu. Et en fait, ça vous prépare à ce qui va arriver derrière. Vous arrivez, et effectivement, il y a une maison extraordinaire avec des colonnes, et puis il y a votre ami qui est là sur les marches, qui vous attend et qui vous accueille. Et ce chemin, cette allée que vous avez empruntée, elle a préparé votre cœur à cette visite extraordinaire, et vous vous attendez déjà à pas mal de choses de ce qui se passe dans la maison. Mais le prologue de Jean, c'est un petit peu comme ça. C'est cette allée qui va nous amener à l'évangile, qui contient déjà la promesse d'énormément de richesses que vous allez rencontrer au cours de ce parcours. Alors ce que je vous propose, c'est d'abord qu'on le lise. Je vais le lire parce que c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu, elle se proclame et elle s'entend. Et puis ensuite, on va simplement le découvrir ensemble par pas. Alors, on a choisi avec le Père Christophe une traduction particulière. Vous savez que les évangiles ont été écrits en grec. On a l'habitude de les entendre dans une certaine traduction, la traduction liturgique, mais il y a d'autres traductions, la Bible de Jérusalem, la Tobe, traduction œcuménique de la Bible. Là, c'est une traduction du chanoine Osti, qui a l'avantage d'être très proche du texte original grec. Alors ça donne un français un petit peu particulier, mais on a pensé que c'était mieux de prendre cette traduction plutôt qu'une autre. Parce que voyez-vous, une des caractéristiques de l'évangile de Jean, donc écrit en grec comme tous les évangiles, c'est qu'il est écrit dans une langue très simple. Pour ceux qui sont hellénistes, lire l'évangile de Jean en grec, avec une traduction, c'est assez facile en fait. Et en même temps, c'est d'une profondeur extraordinaire. Et ça nous dit déjà quelque chose. C'est comme si Jésus nous accueillait, parce que Jésus est Dieu, Jésus est transcendant, il est au-delà de notre compréhension, il est d'une profondeur insondable, et en même temps, il est disponible, il est là pour chacun d'entre nous. Et dans l'évangile de Jean, on sent ça. Et donc c'est important d'être proche du texte, et c'est pour ça qu'on a pris cette traduction. Je le dis. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. Il était au commencement auprès de Dieu. Par lui, tout apparut, et sans lui, rien n'apparut de ce qui est paru. En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Et la lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas arrêtée. Parut un homme, envoyé de Dieu. Son nom était Jean. Il vint en témoignage pour témoigner au sujet de la lumière, afin que tous crussent par lui. Celui-là n'était pas la lumière, mais il devait témoigner au sujet de la lumière. La lumière, la véritable, qui illumine tout homme, venait dans le monde. Il était dans le monde, et par lui, le monde apparut, et le monde ne l'a pas connu. Il est venu chez lui, et les siens ne l'ont pas accueilli. Mais à ceux qui l'ont reçu, il a donné pouvoir de devenir enfants de Dieu, à ceux qui croient en son nom, qui ne sont pas nés de sang, ni d'un vouloir de chair, ni d'un vouloir d'homme, mais de Dieu. Et le Verbe est devenu chair, et il a séjourné parmi nous. Et nous avons contemplé sa gloire, gloire comme celle que tient de son Père un Fils unique, plein de grâce et de vérité. Jean témoigne à son sujet et il crie « C'était celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi est passé devant moi, parce que, avant moi, il était. » Car de sa plénitude, nous avons tous reçu et grâce sur grâce. Car la loi a été donnée par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Dieu, personne ne l'a jamais vu. Un Dieu, Fils unique, qui est dans le sein du Père, nous l'a fait connaître. Prions. Et Seigneur, je te rends grâce pour ce magnifique texte que tu nous donnes aujourd'hui. Et Seigneur Esprit Saint, je demande que tu sois parmi nous, toi qui as inspiré ceux qui ont écrit ces textes et qui en est le meilleur interprète. Sois parmi nous, sois avec moi ce matin et sois dans chacun de nos petits, afin que chacun d'entre nous puisse entendre ce que tu as à nous dire personnellement aujourd'hui à travers ce texte. Je te le demande dans le nom très saint de Jésus. Amen. Alors, ce texte, prenons-le. Et dès le début, je dirais, l'évangéliste plante le décor avec ses premiers mots. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. Au commencement, ça fait penser tout de suite à un autre texte, au premier texte de la Bible, au chapitre 1 de la Genèse, au commencement. Et dans la traduction grecque de l'Ancien Testament, vous savez que l'Ancien Testament a été écrit en hébreu, mais il a été traduit en grec quelques siècles avant Jésus-Christ par les Juifs, dans un texte qui s'appelle la Septante. Eh bien, les mots sont les mêmes, enarché en grec. Au commencement, dans le principe, c'est plus qu'au commencement temporel, c'est l'avant. Et donc, l'évangéliste tout de suite nous dit de quoi il s'agit. Il ne s'agit pas seulement de l'histoire d'un personnage, à un moment donné, à un lieu donné, et c'est effectivement l'histoire d'un personnage, à un moment donné, à un lieu donné. Les autres évangélistes vont être très concrets, hein. Ils vont commencer avec des généalogies, ils vont commencer... Mais Jean, il nous dit tout de suite, en fait, moi je vois plus loin. Ce dont je vous parle, c'est pas seulement l'histoire d'un personnage, mais c'est de l'histoire de la relation entre Dieu et les hommes. Et il nous ramène tout de suite à un autre commencement qui est celui de la création. Ça place tout de suite la barre très haut. Et vient ensuite très vite ce mot, le Verbe. Enfin, traduit ici comme par le Verbe, vous avez sûrement entendu d'autres traductions comme la parole, au commencement était la parole, et la parole était auprès de Dieu, et la parole était Dieu. Le mot Verbe, ici, traduit le mot latin verbum, qui lui-même traduit le mot grec logos. Alors, pas là pour vous faire un cours de grec, mais je pense que c'est important de s'arrêter un peu sur ce mot logos parce qu'il est, très important. Le mot logos, il s'adresse à deux cultures en fait ici. Et on est à la croisée au moment où cet évangile est écrit, hein, vers la fin du 1er siècle, on est à la croisée de deux cultures. La culture dominante, hein, qui est la culture hellénistique, la culture grecque, la culture par excellence, la culture des philosophes, et le monde juif. D'où est issu Jésus, d'où est issu Saint Jean, d'où sont issus initialement les chrétiens. Et ce mot logos, il a de multiples significations pour chacun de ces groupes. Et c'est certainement pas de manière fortuite que l'évangéliste a choisi logos. Alors pour les Grecs, d'abord, c'est un mot qui a une connotation importante. En philosophie platonicienne, le logos, c'est la raison qui organise l'univers. C'est ce qui explique, c'est ce qui structure l'univers. Et Philon, un philosophe juif, avant les évangélistes, est le premier à avoir fait ce rapprochement entre le logos des Grecs et ce à quoi fait référence logos dans le monde juif. Alors, dans le monde juif, c'est une autre histoire. Et logos, c'est plus que, mais ça fait évidemment référence à la parole. D'où parfois cette traduction à la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, on en parle beaucoup dans l'Ancien Testament. On en parle en fait dès le début, au moment de la création. Parce que vous savez que Dieu dit. Donc la parole de Dieu, elle est créatrice. Et d'ailleurs, on le voit ici, hein, on le voit ici, puisqu'il était au commencement auprès de Dieu, ce Verbe, et par lui tout a paru. et sans lui, rien n'a paru de ce qui est paru. C'est la parole, c'est le Logos qui est auprès de Dieu dans la création. Et c'est intéressant d'ailleurs, le père Dominique Philippe, le fondateur de la communauté Saint-Jean, qui a prêché de nombreuses retraites sur l'Évangile, et c'est pour les jeunes, et ces retraites sont... on peut trouver leurs textes dans ce livre qui s'appelle « Suivre l'agneau » dont il y a 3 tomes. Je crois que le tome 1, celui-ci, est quasiment introuvable, mais les 2 autres sont à la librairie. Le père Philippe nous dit « Regardez au début la distinction entre les verbes. Au commencement, était le verbe. C'est le verbe être. C'est l'être. Dieu, c'est l'être. Je suis celui qui est, dit Dieu dans l'Ancien Testament. » Et là, ce qui a paru, ça c'est la création. Notre être, nous le tenons de Dieu créateur. La première chose qu'il nous donne, c'est l'être. Et ce n'est pas le même verbe qui est utilisé. Ce qui est paru, c'est ce qui relève de la création. Et nous relevons de la création. Donc, le Logos dans l'Ancien Testament, il est créateur. Et on a plein d'exemples, à part le premier chapitre de la Genèse, où cette parole est citée. Et on montre toute sa toute-puissance. Je voudrais vous en citer quelques-uns. Par exemple, dans le psaume 32, les versets 6 et 9. Par sa parole, et c'est le mot logos qui est utilisé dans la traduction grecque de la Septante, par sa parole, le Seigneur a fait les cieux et toute leur armée par le souffle de sa bouche. C'est lui qui a parlé et cela arriva. Lui qui a commandé et cela exista. La parole est créatrice. Non seulement la parole est créatrice, mais elle a une puissance, elle est vivante et elle a une puissance. Et là, je vais vous citer un autre texte qui est pour moi une poésie extraordinaire et qui est le cœur de mon amour pour la parole de Dieu, du prophète Isaïe, où on nous montre ce qu'on appelle la puissance performatrice de la parole, c'est-à-dire le fait que la parole nous transforme. La parole qui est dans la Bible, ce n'est pas juste des paroles dans un livre, c'est la parole de Dieu, elle est vivante et elle nous transforme. Voilà ce que dit Isaïe au chapitre 55, versets 10 et 11. C'est que, comme descend la pluie ou la neige du haut des cieux, et comme elle ne retourne pas là-haut sans avoir saturé la terre, sans l'avoir fait enfanter et bourgeonner, sans avoir donné semence au semeur et nourriture à celui qui mange, ainsi se comporte ma parole, du moment qu'elle sort de ma bouche. Elle ne retourne pas vers moi sans résultat, sans avoir exécuté ce qui me plaît et fait aboutir ce pourquoi je l'avais envoyé. Donc vous avez cette image extraordinaire de la pluie qui traverse le sol et de cette parole qui nous traverse, qui nous a traversé quand je l'ai lu tout à l'heure, et qui, quand elle nous traverse, nous transforme. C'est la puissance de la parole de Dieu. Donc vous voyez tout ce qui est contenu juste dans ce mot « logos hein, ». Et bien plus encore, on pourrait passer toute la matinée juste sur ces 2 ou 3 premiers versets. Donc ça plante le décor et on est à un niveau extrêmement élevé, extrêmement profond, extrêmement théologique si on veut. Et ça continue. Donc par ce verbe était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Il y a 3 choses là. Il y a la création, par lui tout a paru. En lui était la vie, il y a la vie, et il y a la lumière. Et le père Philippe, encore une fois, nous dit, c'est très intéressant qu'il y ait ces 3 étapes, parce que ça nous dit ce qui fait de nous des êtres humains. D'abord, nous sommes des créatures. Ça, c'est là. Nous sommes parus. Dieu nous donne l'être en premier. Ça, c'est la première chose. Et toute la création, elle vient de Dieu. Mais les pierres aussi viennent de Dieu. À une certaine partie de la création, Dieu donne autre chose, qui est la vie. Et la vie, c'est ce qui permet le devenir, c'est ce qui permet de changer. C'est ce qui permet aussi ce qui nous donne une partie de notre liberté. Mais être un être vivant ne suffit pas pour être humain. Il y a cette lumière aussi qu'il faut recevoir et accepter. Et cette lumière, c'est la lumière de l'Esprit-Saint, celle qui rencontre notre intelligence, et on va voir un peu plus tard que c'est à nous aussi de l'accepter, cette lumière. Si on n'accepte pas cette lumière, on est juste un être vivant, comme d'autres, on n'est pas complètement humain. Il nous faut ces 3 choses pour être complètement humain. Bon, on n'en est qu'au verset 4, et là déjà, tout ça, ça nous emmène très très loin. Et c'est intéressant parce que là, on va retomber tout de suite sur terre, avec Jean. Verset 6. Parut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint en témoignage pour témoigner au sujet de la lumière, afin que tous crussent par lui. Alors là, on a l'impression qu'on était dans la stratosphère et boum, on retombe sur terre là. On nous parle d'une personne, on nous dit même son prénom, c'est Jean. Quand on parle, le nom, c'est très important pour les Juifs. Hein. Ça définit la personne. Alors attention, ici, il ne s'agit pas de Jean l'évangéliste, hein. Il s'agit de Jean le Baptiste. C'est ce que je disais tout à l'heure, cette tension dans l'évangile de Jean, cette profondeur inouïe, et puis à la fois cette proximité. Ben là, on nous parle de quelqu'un, voilà, c'est Jean. Et certes, on nous parle de lui, mais on nous parle de nous aussi. Parce que ce qui va être dit de Jean, ça nous concerne aussi. Je m'explique. Parut un homme, ben chacun d'entre nous est un être humain, et on est là grâce à Dieu, par la création. Envoyé de Dieu. Ben, si nous sommes chrétiens, disciples du Christ, nous sommes tous envoyés par Dieu. Nous avons tous une vocation. Certains d'entre nous ont une vocation religieuse, mais d'autres, comme moi, ceux qui sommes dans le bon, nous avons une vocation. À nous de. Je ne parle pas simplement de la vocation de notre état. Je parle du fait que nous avons un chemin à trouver avec Dieu dans la vie, et nous avons une responsabilité en tant que témoins du Christ. Pour témoigner au sujet de la lumière, comme Jean. À notre manière unique, et la façon dont moi je vais le faire va être différente de la façon dont vous allez le faire, ou vous allez le faire, mais nous devons chacun le faire, comme Jean. Jean l'a fait d'une manière évidemment extraordinaire, mais nous devons le faire à notre manière, et nous avons la responsabilité de le trouver. Afin que tous crussent par lui. Alors là, on touche du doigt un mystère extraordinaire qui nous concerne chacun d'entre nous aussi, c'est que Dieu, évidemment, il n'avait pas besoin de Jean le Baptiste pour se faire connaître, pour que les hommes croient en lui. Il n'a pas besoin. Et pourtant, il choisit d'utiliser un homme, Jean, et il choisit aussi d'utiliser chacun d'entre nous. C'est cette alliance extraordinaire entre Dieu et nous, Dieu par son esprit et nous, pour porter la bonne nouvelle. Donc c'est quelques lignes qui s'appliquent à Jean le Baptiste, elles s'appliquent à nous, d'une manière tout à fait personnelle et individuelle à découvrir. Mais c'est extraordinaire, ça veut dire qu'on est coopérateur de Dieu dans l'annonce de la bonne nouvelle. Et que par nous, d'autres gens sont amenés à croire. Et c'est une vraie responsabilité, et est-ce qu'on en est toujours conscient? Peut-être pas. Alors, attention, il ne faut pas que ça nous monte à la tête. D'ailleurs, le verset 8 nous le dit tout de suite. Hein. Jean, ben, celui-là n'était pas la lumière. Et nous non plus, on n'est pas la lumière. Hein. Il ne faut pas non plus qu'on se prenne pour la lumière, ce n'est pas nous. Mais il devait témoigner au sujet de la lumière. Et nous aussi, nous devons témoigner au sujet de la lumière. Cette lumière, la lumière, la véritable, qui illumine tout homme, venait dans le monde. Ça, c'est aussi extraordinaire. La lumière de Dieu, la lumière de Jésus, la lumière de l'Esprit-Saint, elle est pour tout homme, sans exception. C'est assez révolutionnaire. Ça peut être conçu comme révolutionnaire pour des Juifs de l'époque, parce que les Juifs, c'est le peuple élu. Alors, si on réfléchit un petit peu, en fait, si on regarde la promesse d'Abraham, qui est le début de toute chose, la promesse faite par Dieu à Abraham, il est bien dit « Tu seras le père de toutes les nations ». Donc, c'est bien une prière universelle. C'est bien une promesse universelle, pardon. L'élection du peuple juif, elle n'a peut-être pas été comprise par certains, en tout cas. Parce que, oui, le peuple juif est le peuple élu, mais l'élection, c'est une responsabilité. Et nous, en tant que chrétiens, on le verra tout à l'heure, nous avons cette grâce. C'est une élection aussi, mais c'est une responsabilité. On le verra tout à l'heure, les siens ne l'ont pas accueilli. Le peuple élu avait eu un peu tendance parfois à se dire c'est pour nous, quoi, c'est entre nous. Et nous, parfois, peut-être chrétiens, on a tendance à se dire restons entre nous, c'est très bien. N'oublions pas, hein, Nous devons être témoins afin que d'autres croient par nous. Et cette lumière, elle est pour tout homme. Et elle est là pour éclairer les ténèbres. La lumière brille dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas arrêtée. Alors c'est les ténèbres du monde, mais c'est aussi les ténèbres qui sont en chacun d'entre nous. Alors moi je sais de quoi ça parle, hein, parce que figurez-vous que moi j'étais dans les ténèbres pendant 41 ans. Hein. J'ai été baptisé il y a maintenant 12 ans, après avoir été un athée pendant 41 ans. Alors attendons, j'étais pas un meurtrier ou quelqu'un d'épouvantable, hein, j'étais quelqu'un de... Voilà, mais j'étais dans les ténèbres. Et cette idée que la lumière est pour tout homme et qu'elle a éclairé ma vie, moi, ça me parle d'une manière personnelle incroyable. Jésus, la parole de Dieu, a éclairé ma vie. Et chaque jour, je lui demande d'éclairer ma vie, de me faire comprendre le monde. Vous savez, Jésus dit dans l'Évangile de Jean, chapitre 14, verset 6, « Je suis le chemin et la vérité et la vie ». Eh bien, depuis 12 ans, moi, chaque jour, malgré mes doutes, malgré mes difficultés, malgré mes épreuves, malgré mon péché, chaque jour, je me dis combien cette phrase est vraie. Jésus est mon chemin. Il est la vérité. Et il est la vie. Et peut-être que certains d'entre nous ont eu cette expérience aussi que la lumière de la parole de Dieu, la lumière de Jésus, vient éclairer certaines parties de nos vies qui sont dans les ténèbres. Pas forcément parce qu'on a fait des choses épouvantables, hein. Ça peut être notre péché, mais ça peut être juste éclairer, donner un sens à notre vie. Mais ce n'est pas toujours facile. Il était dans le monde et par lui le monde apparut et le monde ne l'a pas connu. Il est venu chez lui et les siens ne l'ont pas accueilli. Alors évidemment, l'évangéliste parle de Jésus qui vient dans son peuple, celui des Juifs, qui ne l'accueille pas. Mais ça nous parle de nous aussi. Ne nous arrive-t-il pas parfois de ne pas vouloir accueillir Jésus dans certaines parties de notre vie ? Dire, ben oui, non, ça, bon, la messe, c'est bien, l'école biblique, c'est bon, mais après, bon, la famille, ok, mais bon, le travail, non, c'est pas pour Jésus. Mais si, il faut l'accueillir dans chaque partie de notre vie. Et moi le premier, hein, y a des endroits où on n'a pas trop envie qu'ils viennent éclairer là, parce que c'est peut-être pas très beau à voir. Et pourtant, quand on le laisse éclairer, ça change tout. Mais à ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu à ceux qui croient en son nom. Bon bah ça c'est la bonne nouvelle. C'est extraordinaire. Si nous croyons en Jésus, nous pouvons devenir enfants de Dieu. Avec l'Esprit Saint, hein. C'est l'Esprit Saint qui nous fait dire « Abba Père », nous dit saint Paul. Ça nous est donné à chacun d'entre nous, c'est extraordinaire. Ça me fait penser, c'est évidemment quelque chose qui sera repris par l'évangéliste, en particulier au chapitre 3, verset 16. « Dieu, en effet, a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, son unique, pour que tout homme qui croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. » C'est incroyable. Si nous croyons en Jésus, si nous croyons dans le Verbe, nous pouvons avoir la vie éternelle. Saint Paul le dira autrement dans l'Épître aux Romains. Si tu crois, si tu confesses que Jésus est Seigneur, et si tu crois qu'il est... Ou si tu confesses qu'il... Pardonnez-moi, je ne le citerai pas parce que ça sera de mémoire et ça sera incorrect. Mais confesser Jésus, croire en lui, confesser qu'il est Seigneur, mort et ressuscité, c'est la porte du salut. C'est extraordinaire. C'est la bonne nouvelle. Et l'évangéliste Jean précise, parce qu'il dit, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu à ceux qui croient en son nom, qui ne sont pas nés du sang, ni d'un vouloir de chair, ni d'un vouloir d'homme, mais de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Ben, qui ne sont pas nés du sang, ça veut dire qu'on n'est pas enfant de Dieu par notre filiation. On est juif par sa filiation. Mon grand-père était juif, ma grand-mère n'était pas juive, donc mon papa n'est pas juif, puisque ça se transmet par le sang, par la mère. Mais ce n'est pas ça qui vous faisait enfant de Dieu. Alors, peut-être que certains juifs, du temps de Jésus, ne l'avaient pas très bien compris. Mais saint Paul nous rappelle dans l'Épître aux Hébreux que ce qui fait qu'on est enfant de Dieu, c'est la foi. Et le premier qui a eu la foi, c'est Abraham. Donc ce n'est pas le sang. On n'est pas chrétien parce que nos parents sont chrétiens. Alors, nos parents sont chrétiens et souvent nous font le cadeau du baptême, mais ce qui fait que nous sommes chrétiens, c'est notre rencontre personnelle avec Jésus et le fait de l'accepter dans notre vie. C'est de croire en son nom. Donc ce n'est pas par le sang. Ce n'est pas par la chair non plus et pas par la volonté des hommes. Alors, ça veut dire que c'est pas quelque chose d'instinctif, c'est pas par la chair, nous dit le Père Philippe. La volonté des hommes, c'est pas par nos efforts aussi, c'est pas parce qu'on veut le devenir, mais de Dieu, c'est par la grâce. Nous sommes enfants de Dieu parce que Dieu nous aime en premier et qu'il nous fait ce cadeau incroyable de la grâce. Moi, je peux témoigner que quelque part en Angleterre, d'ailleurs, c'était en 2004, je pense qu'effectivement, comme dit Père François à cette phrase extraordinaire, il dit, quand on lui a demandé qui êtes-vous, il dit « Je suis un pauvre pécheur sur lequel le Seigneur s'est penché ». Moi, j'ai vraiment eu ce sentiment il y a une douzaine d'années. Et je rends grâce à Dieu tous les jours de cela. Et ça nous est donné à chacun d'entre nous. Et le Verbe est devenu chair et il a séjourné parmi nous. Alors là, on est au cœur du cœur du cœur de ce prologue. Ce Verbe de Dieu, ce Logos, dont on a parlé tout à l'heure, il est devenu chair et il a séjourné parmi nous. C'est ce qui différencie d'une manière essentielle la foi chrétienne de toutes les autres fois religieuses. Dieu s'est abaissé à devenir homme à travers son Fils, Jésus-Christ. Et il est parmi nous, il est encore parmi nous, il est vivant parmi nous. Waouh ! Et nous avons contemplé sa gloire, gloire comme celle que tient de son Père, un Fils unique, plein de grâce et de vérité. Alors on n'a pas le temps de travailler cette notion de gloire, je suis certain que d'autres intervenants dans le cursus en parleront, parce que pour Saint Jean, la gloire, c'est la gloire de la croix, ce mystère incroyable qui est que nous pouvons avoir la gloire de Dieu dans ce supplice épouvantable qui était la croix par la mort puis la résurrection de Jésus. Mais je suis certain qu'on en parlera plus tard. Et on revient à Jean, Jean le Baptiste cette fois-ci, qui témoigne à son sujet, écrit « C'était celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi est passé devant moi parce que avant moi il était petit. » Les autres évangélistes diront « Il faut que je diminue afin qu'il croisse. » Ben oui, vous savez, Jean le Baptiste était le cousin de Jésus, il était le plus âgé, donc il était venu avant. Mais Jean le laisse passer devant. Et on peut se poser la question, est-ce qu'on laisse passer Jésus devant, dans chaque aspect de notre vie, dans notre famille, dans notre travail? Est-ce qu'on dit à Jésus, mais éclaire-moi de ta lumière dans tous ces aspects de notre vie? Moi, ça m'arrive très souvent d'oublier ça. Donc ce que nous dit, ce qui nous est dit de Jean nous concerne aussi, mettre Jésus devant. Car de sa plénitude, nous avons tous reçu, et grâce sur grâce, car la loi a été donnée par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Jésus récapitule la révélation qui nous est donnée dans l'Ancien Testament. La loi, elle a été donnée au peuple juif. Saint Paul va beaucoup réfléchir à ce passage de la loi à la Nouvelle Alliance. On n'a pas le temps de développer ça. Ici, la loi est importante, mais ce n'est pas la loi qui nous sauve. C'est la foi, c'est la grâce. Et cette grâce, c'est Dieu qui nous a donné, c'est Jésus. Dieu, personne ne l'a jamais vu. Un Dieu Fils unique qui est dans le sein du Père nous l'a fait connaître. Jésus nous révèle le Père. Et je pense que c'est merveilleux de terminer par ce verset, au début de cette école biblique, parce que si Jésus nous révèle le Père, si lui qui est le Verbe, qui est le Logos, nous révèle le Père, toute notre vie devrait être tendue par mieux le connaître, ce Jésus qui nous révèle le Père. Et il se donne à nous de multiples manières, et en particulier de trois manières, Jésus, qui correspondent à... Je pensais à ça ce matin, je ne sais pas si c'est très théologique, je regarde le père Christophe, mais vous savez, on dit souvent que nous sommes des êtres qui avons une tête, un cœur et un corps. Et Jésus se donne à nous de trois manières. Il se donne à nous, on vient de le partager avant pour la plupart d'entre nous, à travers l'Eucharistie. Il vient dans notre corps, il se donne comme nourriture à notre corps. Mais Jésus se donne aussi à nous à travers les autres, à travers celui qui est Jésus, que nous pouvons voir Jésus dans l'autre. C'est aussi pour ça d'ailleurs qu'on va travailler en petit groupe tout à l'heure, parce que se recevoir les uns des autres, c'est une manière de recevoir Jésus. Et puis Jésus, il se donne dans la parole, puisqu'il est la parole, il est le Logos. Lui-même dira, hein, quand il est tenté au désert, en citant l'Ancien Testament, « L'homme ne se nourrit pas que de pain, mais de toute parole sortie de la bouche de Dieu. » Et ça, c'est cette puissance de la parole qui est vivante, hein, et qui nous nourrit, et qui nous transforme, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc je me dis qu'il n'y a pas... C'est un encouragement extraordinaire à se nourrir de la parole de Dieu chaque jour, pour qu'elle nous transforme chaque jour, qu'elle nous illumine de cette lumière. Et donc je pense qu'il n'y a pas de meilleure introduction pour cette école biblique. Voilà, je vous remercie.
Alors...